Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder l'art en lui adjoignant le mot « thérapie ». Et il me plaît de souligner combien chaque mot, pris séparément, revêt une connotation, une interprétation particulière dont la portée est forte. Parle d'art maintenant associe des mots comme « création »,« imagination », »,« expression », »,« communication ». Et si je lis la définition dans le dictionnaire Larousse, j'en ai deux pages, que je ne vais pas vous lire ici parce que le mot « art » venant du fond des âges est décortiqué pour en extraire les racines latines, grecques, indo-européennes et s'applique à des domaines extrêmement variés de l'activité humaine. Alors, le Larousse commence d'ailleurs ainsi « c'est l'un des mots les plus importants de notre culture ». Je suis bien aise de le lire, mais pour reprendre la lecture du Larousse, « l'art » vient de l'accusatif du latin ars, artis, nom féminin à valeur très générale signifiant façon d'être. Pour résumer en gros ce que propose le Larousse, c'est que le mot art est associé à façon d'être, à moyens, méthodes, connaissances, habiletés notamment techniques ou manuelles, et donc qualifie des activités très diverses, voire éloignées les unes des autres, et notamment de notre conception contemporaine de l'art, qui est le moyen de s'exprimer, créer ou communiquer. Mais si bien qu'on évoque facilement l'art de la médecine, les arts martiaux, pour ne citer que cela, et l'on utilise dans le langage courant des locutions comme l'art et la manière, les règles de l'art, etc. Alors, je me souviens qu'à la première émission de La Voix des Arts, je vous ai fait un petit topo, j'expliquais la signification et l'emploi de ce mot appliqué dans divers secteurs pour arriver justement à une idée spécifique de l'art liée à la création et l'expression personnelle et à la communication telle que l'on entend de nos jours. Alors, des classifications ont été proposées pour définir ces secteurs, avec notamment celles proposées par l'Antiquité qui s'en rapprochent plus ou moins. Et j'avais cité à l'époque la poésie lyrique, la poésie épique, l'histoire, la musique, la danse, la tragédie, la comédie, l'art d'écrire la pantomime et l'astronomie. Et toutes ces matières incarnées par 9 muses. Enfin, j'avais abordé la classification du philosophe Hegel, qu'il donne dans son esthétique au XIXe siècle, et où il présente un esprit plus contemporain en valorisant les formes d'expression créative et personnelle. Il faut aussi savoir que jusqu'à cette époque, les notions de beau et d'esthétique sont des valeurs supérieures de référence, ce qui ne sera pas le cas le siècle suivant. Alors au nombre de 6, il s'agissait de l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse, la poésie. Le cinéma, 7e art, a été rajouté lui au 20e siècle. Et on peut dire que maintenant, dès le 20e siècle, les arts retenus, c'est l'architecture, la sculpture, les arts visuels avec la peinture, le dessin, la musique, la littérature, les arts de la scène avec le théâtre, le mime et le cinéma, la danse, les arts médiatiques avec la radio, la télé, la photo et enfin la bande dessinée. Alors les grandes transformations intervenues à partir du 19e siècle et surtout au 20e siècle, causées par les révolutions, les faits sociaux, l'avènement de la science et de la technique influençant les mentalités, ont aussi transformé celles des artistes créateurs, déclenchant chez eux des prises de position avec le rejet de certaines valeurs, notamment liées à l'esthétique. L'art s'est voulu provocateur, innovateur, révolutionnaire, etc. et globalement dans bien des registres. Ces influences se sont fait sentir jusque sur les savoir-faire manuels, notamment la peinture et la sculpture. Car dans ces matières et à peu près jusqu'au XXe siècle, par ces savoir-faire, l'artiste et l'artisan étaient plus ou moins confondus. Et ça, je vous l'avais expliqué dans mes premières émissions. Alors les nouvelles techniques, notamment médiatiques, avec l'introduction des sons, de la lumière et de la vidéo, faisant également leur apparition, il y eut dissociation pour une majorité d'artistes contemporains qui s'est surtout produit au cours du XXe siècle. Et c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer dans mes émissions en vous présentant les différents courants jusqu'à nos jours pour vous démontrer comment l'idée de l'art et l'art ont évolué jusqu'à présent, dépendant des transformations socio-culturelles elles-mêmes liées au développement des sciences et des techniques, entre autres, etc. Alors, mon objectif au travers de ces émissions était de vous donner les clés de compréhension d'un art qui sort du cadre des références esthétiques ou des savoir-faire artisanaux et qui impose ses règles sans forcément faire appel à votre ressenti intérieur. Alors, ce qui veut dire aussi que comprendre n'est pas forcément adhérer ni accepter, mais cela vous permet de vous situer et de tirer parti pour vous de ce qui vous est présenté. Alors ça, c'est une chose qui est quand même utile pour cheminer dans d'autres directions. Et c'est le cas aujourd'hui parce que avec l'art, nous prenons une autre orientation puisqu'il s'agit de confronter l'art à un domaine spécifique qui globalement nous parle de santé et de soins. Alors l'art ici nous intéresse dans le sens où il est proposé à des sujets à problème ou en état de faiblesse ou en souffrance, d'emprunter aux artistes leur médium et leur pratique, notamment la peinture, le modelage, le théâtre, la danse, etc., de manière à ce qu'ils se l'approprient et s'expriment dans le cadre et avec les objectifs offerts par la thérapie, c'est-à-dire le soin. Alors si nous considérons l'art d'un point de vue général et du point de vue de l'artiste, que peut-on dire ? Bon, on constate que l'art s'associe à une activité humaine où l'être, en tant que reflet de son humaine condition, dévoile dans une production artistique, soit peinture, sculpture, écriture, danse, théâtre, entre autres, une part de lui-même. En outre, en présentant ce qu'il est et même peut-être ce qu'il n'est pas, il soulignera ce qui l'intéresse, lui plaît, l'anime, l'intrigue, l'indigne ou le révulse au moment où il s'exprime. Ce qui fait que nous, publics, constaterons qu'œuvres diverses proposent un panel de possibles allant du plus trivial au plus spirituel, en écho ou non avec nous-mêmes. D'autre part, ce qui vient de l'artiste, que ce soit ses pensées, émotions ou sentiments, seront manifestés plus ou moins consciemment et avec plus ou moins de savoir-faire, voire de brio, pour que nous constations au final que le singulier, l'atypique, peut côtoyer le banal pour se confronter, s'apparenter, se confondre ou se dissocier du monde de l'autre ou des autres. L'artiste, au travers de son œuvre, de ses mises en scène, également souligne en sens ou dénonce les réalités du moment, qu'elles soient personnelles, politiques, sociales. Il sera capable aussi d'être le reflet du monde qui l'entoure ou plus ou moins apte à susciter des débats autour de la condition humaine ou du sens de l'existence ou en rapport avec le monde environnant. Il saura aussi s'en défaire et imaginer l'impossible, créer parfois une autre réalité, un monde différent de celui qui l'environne, un monde insolite, personnel, voire un refuge qui l'isole et le protège, lui permettre de supporter ce qui n'est pas supportable et peut-être même le sauve de lui-même et de la société dans laquelle il vit. En voilà globalement, peut-être un peu pêle-mêle, ce que le mot art évoque quand l'artiste s'en empare. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à prolonger la liste. Alors, dans La Voix des Arts, c'est plus d'une vingtaine d'émissions consacrées à l'art et à l'artiste pour les appréhender sous toutes les coutures. Cependant, par l'intermédiaire de la liste que je viens de dérouler ici, je laisse entrevoir quelques similitudes sur des états d'esprit et manifestations communes à l'artiste déclaré comme tel et au sujet susceptible de s'adonner à l'art-thérapie. Mais nous verrons cela par la suite. Alors, quant au mot thérapie, que suggère-t-il ? Voyons déjà ce que disent les dictionnaires à ce sujet. Alors, dans le média dico d'Internet, je lis « La thérapie désigne dans le domaine médical un traitement basé sur un ensemble de mesures qu'applique un thérapeute sur un patient pour soigner une maladie, prévenir de certains maux. » Dans le dico-psycho, toujours sur Internet, je lis « Méthode curative, la thérapie est un moyen de prévenir, traiter, soigner ou soulager une maladie. » Il existe un grand nombre de thérapies, certaines agissant uniquement sur le psychisme, à l'exemple des psychothérapies, et elles sont nombreuses. Alors que dit le Larousse papier ? Déjà, le Larousse préfère le mot thérapeutique, puisque le mot thérapie qui est mentionné en plus fait partie d'un sous-groupe, et je lis néanmoins que le mot repris au 19e siècle est synonyme de thérapeutique. Et je vous lis, il est surtout usité en psychiatrie, entre parenthèses thérapie de comportement, et en psychanalyse, par empr- emprunt à l'anglais thérapie, T-H-E-R-A-P-Y, ou à l'allemand thérapie, qui s'écrit donc comme le français, de même origine. Et il aurait attesté isolément en 1669 dans Monsieur de Pourceaugnac de Molière. Le Larousse dit également, c'est un emprunt au grec therapeia, T-H-E-R-A-P-E-I-A, qui signifie soin, dérivé de thérapeien, E-U-E-I-N, dans le discours hellénisant des médecins. Quant à thérapeutique, je lis que c'est un emprunt savant au grec thérapeutikos, T-I-K-O-S, et qui signifie qui prend soin de, et également relatif aux soins qu'on prend, aussi substantivé à thérapeutiquer, désigné l'art de prendre soin de quelqu'un. Ouh. Ça semble un peu savant, un tantinet complexe. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais ça ne fait pas de mal quand même de temps en temps de vérifier quelle est l'origine des mots que nous employons, ne serait-ce que pour comprendre et ainsi exclure le hasard et l'aléatoire au profit d'une interprétation qui sera utile dans le futur pour préciser ce qu'est l'art associé à la thérapie. Alors accrochez-vous à la douceur de ma petite voix et suivez-moi. Alors, dans le Dicopsico, sur internet, il était question de thérapies qui agissaient uniquement sur le psychisme, à l'exemple des psychothérapies qui elles-mêmes seraient nombreuses. Alors la définition de la psychothérapie, je pense que nous en aurons besoin pour mieux nous approprier par la suite la définition de l'art-thérapie, c'est celle-là, je la lis. C'est une méthode thérapeutique qui fait uniquement appel à des moyens de l'inconscient au subconscient afin de traiter les troubles psychique ou somatique de l'esprit. Alors on retrouve dans psychothérapie les racines grecques psyché, P-S-Y-K-H-E, qui signifie âme, esprit, et thérapeia, P-E-I-A, associé à la cure et aux soins. Alors le Larousse d'internet dit « C'est toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique. » Et le Larousse médical ajoute « C'est une méthode thérapeutique utilisant les ressources de l'activité mentale. » Bon, en bref, la cause d'un problème viendrait du psychisme et du mental et trouverait sa réponse et sa résolution grâce à un soin adapté affilié aux psychothérapies. Alors, si je reprends le texte d'Icopsico, je lis « Certaines médecines non conventionnelles sont assimilées à des thérapies hypnose, luminothérapie, art-thérapie. » Alors ici, il semblerait que d'après mes recherches sur internet, notamment, l'art-thérapie soit classée dans le registre des psychothérapies. Alors, le Dicopsico mentionne en outre des thérapies brèves, des thérapies longues, des thérapies individuelles ou en groupe, exemple thérapie de couple, thérapie familiale. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ceci est assez explicite pour que le mot thérapie suggère l'idée du soin et de la réparation en direction et au profit d'un sujet affaibli, fragile ou malade, voire cassé, et peut-être au pire, qui sait, détruit dans son corps, son âme ou son esprit. Bon, ceci dit, et à mon avis, l'inthérapie n'implique pas pour autant la guérison, même si elle oriente vers et s'applique à y parvenir et y parvient aussi. Enfin, tout au plus s'agit-il de penser, de soutenir, de réajuster, de restaurer, voire de stimuler des capacités latentes, et c'est souvent par un accompagnement, en espérant qu'un mieux-être en découle pour la personne en souffrance. Mieux-être qui peut d'ailleurs être précédé au moment de la thérapie par une accentuation d'un mal-être, car c'est parfois ce qui peut se passer quand une transformation s'effectue et remue l'intériorité du sujet avant que n'émerge l'ordre nouveau. Et c'est une étape parfois nécessaire malgré la déstabilisation. Enfin, quoi qu'il en soit, la thérapie, par ce qu'elle propose, rappelle au sujet souffrant ou confronté à un problème qu'un être est là, le thérapeute, pour l'accompagner au mieux avec sa pratique et que celle-ci est potentiellement bénéfique et peut ouvrir la voie de la guérison. Et parfois même, ne s'agit-il que d'une seule présence qui agit comme un baume ou un stimulateur d'énergie, et ne dit-on pas de certains animaux qu'ils sont thérapeutes quand on vérifie une amélioration à leur contact chez des enfants autistes, des personnes handicapées ou autres sujets fragiles comme les personnes âgées. Ou ce qui fait du bien est thérapeutique d'une certaine manière. Et le thérapeute peut être simplement celui qui sait apaiser, quel qu'il soit. Alors le soin, c'est aussi trouver le déclic pour réactiver chez la personne en souffrance une dynamique de vie qui la propulse sur un chemin de guérison. Et dans certains cas, il est dit qu'une personne s'auto-guérirait d'une maladie grâce à son attitude et en se réappropriant sa force de vie. Et le thérapeute endosse alors le rôle peut-être d'accompagnant, de guide, de soutien. Bon, certains êtres ne guériront jamais dans le sens traditionnel que l'on entend. Guérir de quoi en effet lorsqu'une personne né handicapé, c'est-à-dire qu'il lui manque des capacités intellectuelles, cognitives ou au niveau physique, un bras, un organe, etc. Et cela déjà à la naissance. Alors nous les voyons comme des êtres diminués, mais je me plais à remarquer que la vie est là en eux, autour d'eux, dont ils peuvent profiter pleinement, eux aussi, s'ils s'inscrivent dans sa dynamique. Et le thérapeute est là pour les aider à réactiver cette dynamique et aussi présent pour stimuler d'autres capacités plus ou moins compensatrices. Alors je pose la question, est-ce que chacun n'a pas le droit de vivre pleinement la vie qui lui est donnée et que face à cette existence dont le mystère nous échappe, nous sommes tous soumis à des limites, c'est-à-dire empêchés, et que d'une certaine manière, ne pensez-vous pas que nous sommes tous plus ou moins handicapés, c'est-à-dire confrontés à des barrages, des blocages, qu'ils soient physiques, intellectuels, psychiques, voire sociaux, selon le contexte. Alors répondre oui, c'est changer son regard, le teinter peut-être davantage d'humanité et d'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai répondu oui, c'est à vous de voir. Alors parler du sujet souffrant, c'est aussi évoquer l'attitude et le savoir-être du thérapeute. Alors les verbes accueillir, écouter, guider, soutenir, accompagner, réconforter aussi sont implicitement liés aux actions du thérapeute. Ce sont des mots humbles en lien avec le service à l'autre. Et c'est pour cela que j'aimerais revenir sur la signification des mots et notamment sur la signification du mot humble. Alors le dictionnaire Larousse donne cette définition qui s'abaisse volontairement. Communément et vulgairement, l'humilité se confond avec le fait de se sentir inférieur et s'écraser comme une plate-moule face à un être supérieur. Bon, moi, c'est une définition qui ne me convient peut-être pas parce que je comprends pas comment une personne humaine, un être vivant, peut s'assimiler à cette définition simpliste, triviale, parce qu'elle remet en cause toute la légitimité du vivant, celle à être et à croître. Alors, ne pensez-vous pas que être humble, c'est tout bonnement occuper sa juste place et s'ajuster simplement et au mieux à l'autre, quel qu'il soit, plus ou moins développé ou performant par rapport à soi dans un domaine ou un autre. Et n'est-ce pas adopter une attitude d'écoute pour essayer de comprendre afin de pouvoir échanger et communiquer? Alors pourquoi ne pas voir dans l'humilité la capacité à être humain en toute simplicité, face à cet autre pour lequel l'attention est mobilisée, de s'accorder en bannissant de soi, tant que faire se peut, l'esprit de supériorité et d'infériorité d'ailleurs, jugement et a priori. Et c'est peut-être le meilleur moyen de créer une relation, au moins un contact qui d'ailleurs est essentiel dans la relation de soins. Et ce qui n'est pas si simple à réaliser et demande certainement un travail intérieur avec prise de conscience, lesquelles souvent acquises dans l'adversité, voire la souffrance, ce qui peut favoriser d'autant plus la réceptivité au malaise d'autrui. Et c'est ainsi que l'on peut évoquer l'empathie dont la manifestation est quand même à prendre en compte pour s'occuper de l'autre. Alors j'ai évoqué l'empathie, qu'est-ce que l'empathie? Le dictionnaire Larousse nous dit « L'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent ». Alors, je pose la question en guise de résumé de tout ce que j'ai développé devant vous. Est-ce que la juste attitude vis-à-vis de soi et d'autrui, dans la simplicité, propice à développer l'attention à l'autre, sans faire intervenir a priori ni jugement, le tout associé à l'empathie, ne sont-elles pas des qualités premières utiles au service d'autrui et donc au thérapeute, auquel j'ajouterais la vigilance et selon le cas, à degré variable, la capacité à instaurer un climat de confiance. Alors l'attention à l'autre, qu'est-ce que c'est ? C'est accorder de l'intérêt à une personne, la reconnaître, l'écouter, la voir derrière la pathologie et accueillir d'elle ce qu'elle a à dire et même ce qu'elle émet sans le formuler verbalement. Alors, quant à la vigilance qui requiert une attention de tous les instants, pourquoi est-elle nécessaire, surtout dans un contexte psychiatrique ou psychologique ? Peut-être de manière à s'adapter aux changements, notamment de comportement chez certains sujets, afin de réajuster son attitude au mieux. Et pour être en mesure également de protéger l'autre et se protéger soi-même en faisant face aux imprévus déstabilisants, risque également de danger. Enfin, en tout cas, prendre soin de la relation, c'est optimiser la thérapie en faveur de la personne qui en a besoin. Alors, pour résumer, je dirais qu'une fois le contact pris et la bonne attitude adoptée dans un climat de confiance, l'accompagnement peut commencer. Alors, c'est vrai que j'aimerais sortir de mes expériences de l'accompagnement et du soin limité et spécifique pour recueillir l'avis de professionnels confirmés dont la pratique est journalière et constante, mais rien ne les empêche, s'ils écoutent cette émission, de se manifester déjà sur le site RLP. Alors, j'espère aussi parvenir à recueillir des témoignages en relation avec les différentes matières que j'aborde, toujours évidemment en lien avec l'art, puisque nous sommes sur la voie des arts. Alors, en ce qui concerne la guérison, c'est souvent un mot de médecin parce que guérir fait partie du vocabulaire du médecin, sûr de lui et de sa médecine, qui dispose de connaissances poussées et d'un arsenal de moyens divers. Par exemple, ce sera un bon vaccin pour contrer le virus, une chirurgie à bon escient pour retirer la tumeur, etc. Alors le corps reste le vaste domaine du médecin qui guérit, et même le médecin psychiatre dont le domaine est la tête, siège de la pensée et de l'esprit, dispose d'un arsenal de produits, de techniques, pour intervenir sur la mécanique, la physiologie. Ce qui ne l'empêche pas de prêter attention à des niveaux plus subtils. Cependant, et selon la pathologie et le problème à traiter, dans bien des cas, reste l'âme et l'esprit du sujet qui subit l'agression et dont parfois on ne s'occupe pas suffisamment pour réamorcer chez lui une dynamique profitable à un processus de guérison totale. Et combien démunis, impuissants, peut se sentir impatient face à son drame. Parfois même est-il en état de sidération et cela passe inaperçu. Et je pense notamment à une maladie comme le cancer qui est capable de faire autant de ravages sur le psychisme que dans le corps. Alors nous avons bien vu que dans la définition de thérapie, celle-ci concerne en partie les soins pour personnes souffrant au niveau mental ou psychique, et on peut supposer que des médecins avec l'état d'esprit du thérapeute cité plus haut sauront poser leur regard sur l'intégralité de la personne et non plus uniquement sur une pathologie qui mobiliserait toute leur attention au détriment du sujet souffrant instrumentalisé pour être traité. Et cette différence de regard est fondamentale pour amorcer une collaboration entre patient et médecin, thérapeute, réactiver une dynamique afin que le sujet devienne lui-même élément actif du processus de sa guérison. Mais bien souvent, autour d'un patient, une équipe pluridisciplinaire travaille en synergie et ce sont des médecins spécialistes et chirurgiens, infirmières pour l'essentiel, et selon les pathologies et problèmes à traiter, s'ajoutent des rééducateurs genre ostéopathes, un acupuncteur pour stimuler l'énergétique, voire des psychiatres ou des psychologues qui s'occuperont eux davantage de votre âme, de votre état d'esprit ou votre mal-être, et peut-être aussi pour cette partie interviendra un art-thérapeute. Chacun dans son domaine apportant connaissances, savoir-faire spécifique, mais également et non des moindres, un savoir-être. Alors c'est tout ce tissu de compétences mêlées d'humanité, tissé autour d'un sujet fragile pour le soutenir, qui permettra à celui-ci de s'accrocher à la vie et remonter la pente. Alors il est inutile de vanter la beauté des métiers de ceux qui soignent, soutiennent, rééduquent les autres, quel que soit leur niveau d'intervention, cela coule de source. Souhaitons-leur peut-être de l'exercer avec le bon état d'esprit. Et moi, je les remercie pour leurs compétences, acquises souvent au prix de longues et patientes études ou d'un vécu laborieux, qu'ils associent à leurs qualités pour les mettre à notre service. Alors l'échec et la mort fait aussi partie du contexte médical, hein. Malgré les compétences et les bonnes volontés, et l'humilité permet aussi d'accepter de ne pas être tout puissant, même si l'on fait tout ce que l'on peut. Bien, ben maintenant que les bases sont données, essayons d'associer l'art à la thérapie pour comprendre ce qu'est l'art-thérapie, comment l'art-thérapie est née et quel est son champ d'application. Et comment l'art et le soin vont-ils s'articuler entre eux de manière à générer une pratique. Alors ce sera l'objet de la seconde émission sur l'art-thérapie, car je vois que le temps s'est bien écoulé. Je dirais simplement et à première vue que l'art-thérapie serait une forme de soin dans le cadre des psychothérapies qui inclut des pratiques artistiques comme théâtre, musique, peinture, collage, modelage, écriture, la danse entre autres, pour qu'un sujet affaibli ou malade ou limité ou en souffrance s'en empare afin d'exprimer voir expurger son mal, se faire du bien, communiquer, stimuler des capacités latentes, voire transformer son intériorité de manière à évoluer un peu plus en harmonie avec lui-même et peut-être aussi avec les autres et le monde qui le porte. Sur ce, Christine Darboux de La Voix des Arts vous dit au revoir à tous et rendez-vous pour la suite de l'art-thérapie à la prochaine émission.